Chapitre 5. Ce jeudi 3 juillet, en fin d'après-midi, le Boeing 707 de la BOAC atterrissait sur l'aéroport d'Embakasi. Jean-Louis Bayot et Chantal Riac étaient parmi les passagers. Le voyage de 8 heures avait passé très vite pour les deux amants, tout au plaisir d'être ensemble et de devoir passer 3 semaines dans un des plus beaux pays du monde. Bayot avait laissé derrière lui, comme à la consigne d'une gare, ses points d'interrogation sans réponse, son travail à l'hôpital, son fils Philippe, qui lui avait annoncé la veille son succès avec mention, et l'échec de Muriel, et son ami Lambert qui les avait accompagnés à Orly. Il avait dans sa serviette suffisamment de médicaments pour soigner tout un service, et avait fait promettre à Chantal de ne jamais aborder le sujet de sa maladie. Quelques jours plus tôt, il avait adressé à René Dorjal une longue lettre par l'intermédiaire du service du courrier au Quai d'Orsay. On lui avait promis que la missive serait arrivée 48 heures avant lui. Jean-Louis et Chantal furent surpris par la douce chaleur qui régnait sur l'aéroport. Ils s'attendaient à un climat tropical, bien que, quelques minutes avant l'atterrissage, l'hôtesse de l'air eût annoncé que la température au sol était de 21 degrés. Ils arrivaient en fait dans ce qui, dans l'hémisphère sud, correspond à l'hiver. Après les formalités de douane, qui durèrent moins de temps que Bayot ne l'avait craint, ils se retrouvèrent dans la petite salle des Pas-perdus. René Dorjal les y attendait, et les deux hommes s'embrassèrent avec émotion. Ils ne s'étaient pas revus depuis 19 ans. « Mon pauvre Jean-Louis, si l'on m'avait dit il y a seulement 15 jours que j'allais te revoir au Kenya, j'aurais éclaté de rire. » Il se tourna vers Chantal. « Mademoiselle, je suis enchanté de faire votre connaissance. Puis-je, au nom de l'ambassadeur de France, malheureusement retenu par ses importantes fonctions, vous souhaiter la bienvenue. Jambo, Mensahab. Pardon ? C'est votre première leçon de Swahili. Vous verrez, en 15 jours, vous en saurez autant que moi. Jambo, c'est le salut de l'Afrique de l'Est. Et Mensahab, c'est madame, tout simplement. Et ça, voyez-vous, c'est le Buana Bayo. Allons, vous devez être fatigué. Venez par ici. La 404 de l'ambassade vous conduira à votre hôtel. » Un Africain attendait au volant de l'automobile, tout en lisant la dernière édition de Taifa Leo. Il salua respectueusement les deux arrivants, à grand renfort de Jambo Mensahab et Jambo Buana, puis la voiture fila vers Nairobi, à quelques kilomètres de là. René Dorjal, lui, avait terriblement vieilli. Sans son air bien français, sans sa moustache gauloise et sa grosse pipe, est-ce que Bayot l'aurait reconnu ? Mes chers amis, déclara René Dorjal en imitant le débit monotone d'un guide, tandis que la voiture fonçait vers la capitale en roulant au milieu de la chaussée, nous nous trouvons actuellement dans les plaines d'Ati, et nous longeons ce qui forme le parc national de Nairobi, que vous visiterez prochainement. Jadis, il n'y avait pas de parc, et les animaux sauvages n'hésitaient pas à semer la panique dans les quartiers africains de la capitale. Il paraît que ça arrive encore aujourd'hui, de temps en temps. À propos, poursuivit-il, en reprenant un ton plus naturel, j'aurais bien voulu vous trouver une chambre dans un hôtel à 5 étoiles, comme le New Stanley ou le Norfolk. Mais tous ces palaces ont leurs chambres retenues des mois à l'avance. J'ai eu beau tempêter, rien à faire. Finalement, ce n'est pas plus mal. L'hôtel Normandie est dans un quartier beaucoup plus tranquille, et on y respire déjà l'Afrique à plein poumon. Il est tenu par des Européens charmants, comme vous en trouverez pas mal ici. Des gens qui sont tombés amoureux du pays, comme tous ceux qui aiment la beauté. Pas étonnant que les écrivains aient si souvent tenté de décrire le Kenya. Mais un tel pays ne se décrit pas. C'est comme une très jolie femme, comme vous, Mensahab. On se contente de dire que le ciel est d'un bleu profond, que les nuages y sont merveilleux, et que le Kilimandjaro, qui est en fait en Tanzanie, jusqu'au jour où les Américains l'achèteront pour l'installer au Texas, se détache sur l'horizon. Ça fait 2 ans que j'y suis, et je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est le pays où l'on souhaiterait mourir. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le vieux Baden-Powell. Nous irons peut-être voir sa tombe à Nyeri. Il est mort en contemplant le mont Kenya, ce mont qui, d'après ce que j'ai compris, sert de résidence secondaire au dieu Ngai. Tu parles comme un bas d'équerre, murmura Bayot. On n'a pas été professeur pendant des années pour rien. Quand je vois le cirque que c'est en France, je n'ai aucune envie de rentrer. Ici, au moins, on a l'impression de vivre. Et s'il n'y avait pas la politique, on paierait pour faire le travail que nous faisons. Malheureusement, il y a les politiciens qui se prennent tous pour des César Auguste, la paperasserie pour les affaires étrangères, Dieu sait ce qu'on en fait à Paris, et les experts à recevoir. Le bonheur n'est jamais parfait, mais je crois ne l'avoir jamais touché d'aussi près qu'ici. Ils arrivaient à Nairobi, et Bayot fut surpris à la fois de l'intensité de la circulation et de l'excellent état de la chaussée à quatre voies. « Uhuru Highway, mon cher, l'avenue de l'indépendance. Le centre de la ville se trouve à droite, mais nous bifurquons ici pour votre hôtel. Je vais vous laisser 2 heures pour faire vos ablutions, et je vous reprendrai ensuite. Ma femme vous a préparé un petit dîner, mais elle a promis de ne pas trop bavarder, si bien que vous pourrez aller vous reposer assez tôt. Le changement horaire, je sais ce que c'est. Ça vous scie les jambes pendant 2 jours. Je sens que je deviens amoureuse du Kenya, murmura Chantal. C'est bien ma chance, j'ai déjà un rival, gémit Bayot. Rassure-toi, dit-elle en lui prenant la main, il y a de la place pour vous deux. Et pour toi surtout. Allez, les amoureux, nous sommes arrivés. Je vous retrouve dans 2 heures. Les Dorjal habitaient Serengeti Avenue, à Mutaiga, le plus beau quartier de Nairobi, serti dans un écrin de verdure. Il avait fallu reprendre Uhuru Highway sur plus d'un kilomètre, escalader la butte d'Ainsworth Hill, puis s'enfoncer par Limuru Road dans le vallon verdoyant dont un des versants constituait Mutaiga. La maison, à 2 pas du terrain de golf, était immense. Le gazon, éclairé par des projecteurs, était d'un vert resplendissant, et les domestiques africains s'agitaient silencieusement du côté des cuisines. Evelyne Dorjal, autant que Bayot pouvait s'en souvenir, devait avoir près de 40 ans, mais elle semblait encore plus âgée que son mari. Ils prirent place autour de la table, et Bayot fut surpris d'y retrouver les meilleurs crus et les meilleurs fromages de France. « Il faut bien que le courrier diplomatique serve à quelque chose, » expliqua Dorjal. « Si la paperasserie ne manque pas, il n'y a jamais rien d'une importance vitale, bien que je n'oublie jamais, aux réceptions, de souligner les liens indicibles qui unissent la France et le Kenya. Alors on peut sans difficulté glisser entre les dossiers les cartouches de cigarettes, les châteaux Lafite Rothschild, les camemberts et les alcools. Dans notre profession, il faut aller de cocktail en cocktail. Je dois dire que ceux de l'ambassade sont parmi les plus appréciés. Les vins français et les femmes françaises sont de loin nos meilleurs agents publicitaires. Réciproquement, Joseph Kessel et Henri de Montfred ont fait connaître le Kenya aux Français, plus que les prospectus du ministère du Tourisme. Bayot se demanda si les efforts du valeureux Dorjal n'étaient pas aussi vains que les siens. Même à ce niveau, pensa-t-il, la politique reste une sinistre plaisanterie. Sans doute, quelques businessmen français devaient-ils réaliser quelques affaires dans ce pays. Et ces messieurs les experts, qui font le tour du monde aux frais du gouvernement, devaient-ils ramener à Paris de pesants rapports et de fort belles diapositives. Mais cela changeait-il vraiment le sort des Africains? Et la France, dont la richesse est aussi réelle qu'inégalement distribuée, n'avait-elle pas mieux à faire que d'envoyer des fromages aux diplomates en poste ou des collections de la Pléiade qu'une infime minorité serait jamais à même de comprendre? « Tu restes silencieux, » reprit Dorjal à l'intention du médecin. « J'imagine sans mal ce que tu es en train de te demander. Est-ce que ça sert à quelque chose, tout ce cinéma? Ma foi, je n'en sais rien. » Ce n'est que le tout début. Grâce à nos efforts et à ceux de nos professeurs et des gens de l'Alliance française, il y a quand même une poignée de Kenyans qui s'intéressent maintenant à la France. Je crois que Madame Bovary a dû sortir 2 ou 3 fois en 5 ans des rayons de la bibliothèque universitaire. « Mais le jeu en vaut-il la chandelle ?» demanda Bayot. « Comment le savoir ? Allumons-la toujours et on verra ensuite. Et puis, si nous ne sommes pas là, ce sont d'autres pays qui prendront la place. Je vous montrerai demain le blockhaus de l'ambassade de Chine. Impressionnant. Et ici, les Chinois se contentent de vendre, à côté de la poste, des manuels bon marché pour apprendre leur langue. Mais la Tanzanie leur est plus accueillante, et ils sont chez eux à Zanzibar. Ils construisent une base de sous-marins à Mtwara, et demain la route qu'ils ont projetée reliera l'océan Indien à la Zambie. Bientôt, ils encercleront toute l'Afrique australe, du golfe de Guinée à l'océan Indien. Et alors, crois-moi, on va s'amuser. Tout va sauter. Le plus grand massacre de tous les temps. Évidemment, ce n'est pas pour demain, mais il faut bien rester sur place. Pour rédiger les rapports, Dorjal haussa les épaules. J'ai bien peur qu'on ne puisse rien faire d'autre. L'Afrique connaît ses dernières décennies de calme relatif avant la grande tempête. Car l'Afrique australe, avec la Rhodésie et l'Afrique du Sud, n'est pas décidée à se laisser envahir. Inutile de te dire qu'on joue sur les deux tableaux et qu'on vend également des armes aux supermen d'Afrique du Sud. On n'est jamais trop prudent. Mais pour l'instant, on joue surtout la carte de l'Afrique noire, puisque tout semble indiquer qu'elle a le vent en poupe. Car d'une façon ou d'une autre, l'Afrique noire va basculer dans le camp communiste. Note bien que les Africains ne peuvent pas sentir les jaunes, qu'ils soient indiens ou chinois. Mais si ces derniers peuvent les aider à jouer les guerrilleros, ils fermeront les yeux en tendant la main. Si je comprends bien, reprit Bayot, l'Afrique sera peu à peu recolonisée par les Chinois. Nous n'en sommes pas là. Les Chinois sont des sages. Ils se sont cassés les dents ici et là en voulant aller trop vite. Alors, maintenant, ils prennent leur temps. Ils envoient des ingénieurs, des médecins et des cantonniers. Mais le mouvement me semble inévitable. J'espère avoir le temps de partir avant, avec ma femme et mes quatre gosses. Les éclats de mortier, on en recevra jusqu'ici, diplomate ou pas. Les formidables richesses de l'Afrique du Sud attireront le tiers-monde comme les épices des Antilles attiraient jadis l'Europe. Alors, ma foi, quand tous ces gens-là se réuniront entre eux pour la grande samba de l'an 2000, autant qu'ils discutent en français. Mais alors, intervint Chantal, croyez-vous qu'il fallait décoloniser? Finalement, la colonisation européenne aura été une des plus courtes de l'histoire. Dans 200 ans, on en parlera à peine dans les livres. Depuis que les sociétés organisées existent, les plus forts fondent leur puissance sur la bêtise humaine présumée. Le capitalisme en est la preuve, et le communisme tout autant. Mais le capitalisme est au moins plus réaliste, puisqu'il est fondé sur l'égoïsme. Il y a des jours où j'en arrive à me demander si cette bêtise humaine présumée n'est pas véritable. À peine l'homme a-t-il brisé ses chaînes, qu'il cherche à s'en forger d'autres. Platon avait raison en un sens. L'être humain est fait pour vivre dans une caverne. Il ne supporte pas la lumière. Et les gens qui ne pensent pas comme les autres sont les premiers à en souffrir. Dans 20 ans, les gobe-mouches ouvriront les yeux en apprenant que De Gaulle n'était pas un saint, mais ceux qui l'ont toujours dit se sont retrouvés en prison. Comme pris en faute, Dorjal s'arrêta, appela le boy et fit servir une nouvelle bouteille de Chambertin. « Vous allez me trouver bien bavard, » poursuivit-il. « Reprenez donc un peu de cet excellent vin. » D'autant plus que c'est vous qui le payez avec vos impôts. Que voulez-vous? Ce n'est pas si souvent que j'ai de telles discussions. La communauté européenne du Kenya est à certains égards fort sympathique. Mais ici comme ailleurs, de Casablanca à Tahiti, beaucoup d'Européens qui défendent l'Occident sont des ratés comme moi qui, s'ils retournaient en France ou en Angleterre, seraient tout juste bons à planter des choux ou à végéter derrière un guichet. Regardez les pieds noirs. De Gaulle les a bernés de belles manières. Mais à force de jouer les petits rois dans les Djebel et les Médina, certains d'entre eux avaient fini par se prendre pour des surhommes. Et quand on dégringole d'une telle hauteur, il n'est pas facile de se relever. La même chose se produira bientôt en Europe. Et d'après ce que je lis dans la presse, c'est déjà bien parti. Tout cela serait évidemment assez réjouissant si les grands de demain n'étaient pas les frères jumeaux de ceux qu'ils prétendent renverser. « C'est bien ce que je pense également, » murmura Bayot, que cette discussion enchantait. « Finalement, c'est la nature humaine qui est pourrie. La réussite, c'est faire prendre des vessies pour des lanternes. À coups de cravache ou de débat télévisé, on réussit sans mal à faire ingurgiter des couleuvres, même à ceux qui ont l'estomac délicat. Partout, ce sont les mêmes procédés et le même culte de la vedette, des personnalités de grand format, comme disait un de mes amis. Il nous faut des veaux d'or à adorer. Quand ce n'est pas Hitler, c'est Mao, Staline, Che Guevara ou Franco. C'est la bêtise et l'intérêt qui mènent le monde. Regardez les juifs français de la presse, de la politique ou de la finance. Certains jouent la carte arabe, ce qui est un comble. Contrairement à la sainteté, l'argent n'a pas d'odeur. D'ailleurs, s'il en avait, beaucoup de médecins souffriraient d'une sinusite. Il est vrai qu'on juge notre compétence en fonction des honoraires et de la longueur de nos ordonnances. Quand vous aurez fini de jouer les Cassandres, intervint Madame Dorjal, nous pourrons peut-être passer au salon pour prendre le Kahawa du Kenya. Quel dommage, mademoiselle, que ni Jean-Louis ni René ne soient politiciens. La justice et la liberté régneraient enfin sur la terre. Ce n'est pas si sûr, répondit Chantal, en posant la main sur le bras de Bayou. Le pouvoir corrompt. Et nos deux agneaux ne tarderaient sans doute pas à devenir des loups comme les autres. Demain matin, reprit Dorjal, en servant le café, je vous fais visiter Nairobi et le parc national. Pour la suite de votre séjour, j'ai eu beau sonner toutes les agences de safari, on m'a ri au nez. On loue sa place des années à l'avance. Heureusement, un de nos professeurs de Kenyatta College a accepté de vous organiser un petit circuit au Kenya et en Tanzanie avec sa Land Rover. Ce sera moins confortable, mais finalement tout aussi sympathique. Il connaît le pays comme sa poche, et vous auriez du mal à trouver un meilleur guide. Oh, mais je manque à toutes les convenances. Que devient ton fils ? Il est aux langues orientales. Aux langues orientales ? En voilà un qui a le nez fin. Ceux qui connaîtront le russe ou le chinois seront les derniers à être exécutés. Ils serviront d'interprètes au procès populaire. Et vos enfants ? Vous en avez bien quatre, n'est-ce pas ? Dorjal fit la grimace. Eh oui, nous sommes de l'ancienne génération. Je me demande s'il n'en aurait pas mieux fait de limiter nos ambitions. Nos deux aînés sont à Nyeri pour le week-end, et les jumelles rêvent bien sagement là-haut des éléphants de Tsavo que nous avons vus dimanche. Que feront-ils plus tard ? Ils sont complètement déphasés. Voilà exactement 19 ans que nous bourlinguons à travers le monde. La Jamaïque, New Delhi, Damas, Bangkok, Vientiane, et je dois en oublier. Il n'y a que l'aîné qui soit né en France. Quand on reviendra au pays, notre santé en a pris un sacré coup, surtout en Asie. Oui, quand on retournera en France, nous serons bons à être internés dans un des hôpitaux spécialisés de tes confrères, Jean-Louis. Il y en a d'excellents, et on y fait beaucoup d'affaires. Peut-être y a-t-il des prix pour les familles nombreuses, mais j'en doute. Certains psychanalystes ont du mal à vivre, et je connais des malheureux qui doivent consulter jusqu'à une heure avancée de la nuit. Pour un peu, ils feraient la quête à la porte des églises. Note bien que, pour Evelyne et moi, ça n'a guère d'importance. Mais nos enfants ne comprendront plus rien aux jeunes de leur génération. Chez nous, c'est resté la famille traditionnelle. Le complexe d'Édipe ne fleurit guère sous les tropiques. Nos gosses ne voient pas pourquoi, sous prétexte que je suis leur père, mes idées seraient plus bêtes que celles d'un autre. Mais leur niveau d'études sera-t-il suffisant ? Bayot éclata de rire. Pour ça, ils ne risquent pas d'être traumatisés. Dans 10 ans, on ne demandera aux bacheliers que de savoir lire et écrire. C'est la dernière génération d'humanistes que nous représentons. Nous en sommes deux produits parfaits, inutiles, lucides, sceptiques et désabusés. Quand ils se retrouvèrent seuls dans la chambre de leur hôtel, Chantal et Jean-Louis s'étreignirent longuement. « Avec toi, Chantal, j'ai l'impression d'être immortel. Le temps n'existe plus. Mais nos discussions de ce soir ont dû te paraître bien ennuyeuses. Rien de ce que tu dis ne peut m'ennuyer. Il y a chez toi une hargne d'adolescent. Avoue que tu l'es resté. D'ailleurs, c'est cela qui fait ton charme. Tu n'acceptes pas la vie telle qu'elle est. Tu es l'homme des contraires. Tu prétends toujours que la liberté n'existe pas. Et tu me disais l'autre soir que toutes nos pensées et tous nos rêves viennent du jeu mystérieux de nos cellules. Tu prétends croire à ce déterminisme chimique et génétique. Et malgré cela, tu voudrais changer l'homme. Oui, je sais, ma pensée n'est pas cohérente. Je voudrais que l'homme soit libre. Et en même temps, je sais bien qu'il ne l'est pas. Mais tu es libre de m'aimer, n'est-ce pas? Libre ou pas, quelle importance, puisque je t'aime. Jean-Louis, si les circonstances avaient été différentes, est-ce que tu m'aurais épousé? Est-ce que nous aurions eu des enfants, comme les Dorjal? Bien sûr que non. Je t'aime trop pour te mettre en cage. Quant aux enfants, ils m'empêchent de dormir. Alors, profitons-en et dormons. Viens près de moi. L'altitude me rend amoureuse. Je sais. Il a suffi que tu montes les deux étages qui conduisent à mon appartement pour que je m'en rende compte. Ce soir-là, Jean-Louis Bayot ne put trouver le sommeil. Il se sentait trop fatigué et en même temps étonnamment détendu. La question de Chantal l'avait intrigué. L'aurait-il épousé, en effet, si leur amour n'avait pas pris naissance dans la nouvelle de sa mort prochaine? Et s'il l'avait connue plus tôt, sa propre vie aurait-elle été différente? Avec Corinne, Bayot avait connu le repos du corps. Leurs âmes n'avaient jamais ressenti cette communion des esprits qu'il éprouvait désormais avec Chantal. Si l'amour existait, ce sentiment de plénitude qui était alors le sien devait en être la preuve. Avec elle, sans doute, tout aurait pu être accepté. Elle aurait été la source où s'abreuver dans la vie professionnelle si desséchante qu'il avait connue. Aurait-il pu vraiment changer? Cet amour n'était-il pas uniquement possible parce que d'avance condamné? Les limites en étaient tracées au préalable. Il ne comportait aucun engagement, aucune servitude. Il n'aurait pas à mourir au feu lent des années qui venaient attiser les bassesses et les égoïsmes. Fragile, il n'en était que plus fort. La source de montagne est pure comme le cristal, car elle retourne vite dans les entrailles de la terre. Mais le fleuve des plaines, qui s'étire sur des centaines de kilomètres, charrie la vase et le limon du temps. Bayot crut découvrir soudain ce qui, dès l'origine, avait détraqué l'apparente harmonie de son mariage. Corinne était à l'image de son magazine. Le style en était sans heurts et sans complexité. Les métaphores en étaient simples. Avec elle, les problèmes les plus ardus paraissaient évidents. Tout y était blanc ou noir, et les solutions proposées radicales et définitives. Et des millions de lecteurs s'y reconnaissaient aisément, car leur certitude avait besoin pour subsister des mêmes certitudes reproduites à des milliers d'exemplaires. Alors que lui, Bayot, n'arrivait jamais à formuler clairement sa pensée, que les mots lui manquaient, que chaque image lui semblait cacher une partie importante de ce qu'il voulait dire, que chaque phrase se heurtait à la suivante et en constituait la maladroite antithèse, que l'essentiel restait malgré tout inexprimable et qu'il lui fallait encore, comme par des notes abondantes, expliquer certaines nuances de sa pensée. Corinne, songea-t-il, était comme certains de ses anciens professeurs de français. Il fallait simplement diviser en trois parties et trouver ces subtiles liaisons qui ne liaient que des mots, mais qui donneraient l'apparence de la logique. Dans cet exercice, comme dans la vie, c'était le masque seul qui comptait, et le grouillement incessant de sa pensée n'avait guère trouvé que chez Montaigne une forme qui lui convint tout à fait. Il y avait les autoroutes qui filaient droit d'un point à un autre. Il suffisait de se laisser porter. Et il y avait ces petits sentiers de montagne qui se tortillaient à l'infini, semblaient redescendre vers la plaine, puis bifurquaient de nouveau et atteignaient enfin la hauteur d'où l'on pouvait contempler le paysage. Et c'est pourquoi Corinne ne l'avait jamais suivi dans son cheminement de paysan peu pressé. Il se retrouvait de temps à autre à l'étape, mais le chemin qu'ils avaient emprunté était par trop différent. Ils avaient si peu en commun que même les sujets de brouille leur avaient toujours manqué. Jusqu'au jour où, fatigué d'attendre celui qui s'obstinait à emprunter les chemins de campagne, elle avait décidé de poursuivre seule une route où tout était si confortablement balisé. Avec Chantal, au contraire, l'être humain ne se réduisait pas aussi facilement. Elle acceptait l'incertitude, l'imprévu, les déchirements de la pensée. Elle savait percer le masque sans espérer trouver autre chose que la marque d'une nouvelle et tout aussi profonde incohérence. Elle avait su, sans le griffer, deviner son orgueil d'adolescent. Et surtout, elle avait réussi à se débarrasser par une chiquenaude du titre de professeur pour aimer ce qui n'était qu'un homme, avec sa grandeur et sa bassesse, ses incertitudes et ses folles exaltations. Elle ne cherchait pas en lui un pilier auquel elle pût s'appuyer. Elle ne demandait qu'à vivre auprès de lui, sans chercher à l'entraîner vers des directions qu'il ne voulait pas prendre. Pour un peu, elle aurait pu épouser Philippe, songea-t-il. Et j'aurais donné ma bénédiction. Ce dont d'ailleurs ni l'un ni l'autre n'aurait eu besoin. Il prit ses médicaments, coucha quelques notes sur son carnet, puis tenta de trouver le sommeil.